Bonjour et bienvenue sur Nos Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité.
Alors en préambule, je suis avec Dorian qui va nous parler de la conférence GRE-Hack. Et pourquoi nous avons invité Dorian ? Parce que je suis au comité de programme de cette conférence depuis 10 ans et donc j'avais envie de leur donner un petit coup de pouce. Voilà, full disclosure pour nos auditeurs. Dorian, est-ce que tu peux te présenter en deux mots ?
Oui, donc tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Je suis donc Dorian, je fais partie à la fois du comité d'organisation de la conférence GRE-Hack et également du comité de programme, donc de la partie sélection de tout ce qui est présentation technique et workshop. Donc GRE-Hack, en quelques mots, c'est une conférence de cybersécurité qui a lieu à Grenoble tous les ans. Cette année, elle aura lieu le 15 et le 16 novembre. En gros, pour résumer le programme de la conférence, le vendredi, on a plusieurs présentations qui s'enchaînent, donc sur des thématiques diverses liées à la cybersécurité. Et le soir, les participants ont l'occasion de faire des workshops, donc là encore, sur des thèmes divers qui vont des tests de pénétration à de l'OSINT. Le vendredi soir, on propose une petite soirée pour faire un petit peu de réseau, pour discuter autour d'un verre. Et le lendemain, le samedi, on a un CTF qui dure toute la journée avec des lots plutôt intéressants à la clé.
Mais oui, vous faites des CTF en journée, donc les boomers comme moi peuvent participer, ça c'est comme un point positif. Est-ce que votre appel à communication est encore ouvert ?
Oui, tout à fait. Il est ouvert jusqu'à début juillet, donc le 7 juillet. On est encore en pleine recherche de présentations et de présentateurs talentueux, que ce soit donc pour des présentations qui peuvent durer d'une quinzaine de minutes jusqu'à quasiment une heure, en fonction du sujet, en fonction de la consistance des travaux. Mais également, on a ouvert un appel pour des animateurs de workshop. On est ouvert à toute proposition qui concerne de près ou de loin la cyber.
Comment on fait pour vous contacter ou vous trouver sur Internet ?
Alors, on a divers moyens de communication. On essaie en tout cas d'être actif sur notre compte Twitter, sur notre compte LinkedIn fraîchement ouvert. On a également notre éternel site Internet. Et donc, sur ces différents réseaux, on a tout ce qui est lien, notamment vers le Call for Paper, pour pouvoir soumettre ses idées de présentation.
Donc GRE-Hack, GREHACK.
Tout à fait.
Merci Dorian.
Merci à vous et à très bientôt.
Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un livre qui s'intitule TPE-PME, les oubliés de la cybersécurité, avec Marc-Frédéric Gomez, qui est l'un de ses co-auteurs. Bonjour Marc-Frédéric.
Bonjour.
Pour discuter avec lui, les contributrices et les contributeurs No Limit Sécu sont Jamila Boutmeur.
Bonjour.
Nicolas Ruff.
Bonjour.
Paul Amar.
Et bonjour.
Marc-Antoine Ledieu.
Bonjour.
Et Vladimir Collat.
Bonjour.
Alors, Marc-Frédéric, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter ?
Oui, je suis responsable du CERT du groupe Crédit Agricole. Et je donne aussi des cours. Et je suis devenu co-auteur, à mon insu, d'un livre suite à un mémoire.
À ton insu, il faudrait que tu nous expliques. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre ?
Alors, au départ, on a passé un master à l'école de guerre économique. On a fait un mémoire de fin d'année, comme c'est obligatoire. Et suite à la lecture de celui-ci, tout le monde nous a encouragé, en particulier l'école, de dire « vous devriez écrire un livre pour permettre justement de partager cette connaissance, toutes ces idées, pour faire de la cybersécurité dans les TPE et les PME avec les moyens associés dont elles disposent. » Car l'objectif n'était pas de faire de la cybersécurité comme on voit dans les grands comptes ou avec des budgets informatiques sur des grosses ETI.
Quand tu dis « on », c'est-à-dire que vous étiez tous les co-auteurs ensemble ?
Tout à fait.
Dans ce master.
Alors, on est 5 co-auteurs, donc ça vient de différents horizons. Il y a des personnes des assurances, on a des chefs d'entreprise, on a aussi des gendarmes, donc des gens extraordinaires qui nous ont amené une rigueur pour écrire le mémoire ainsi que le livre et une discipline de fer, quoi. Parce qu'il a fallu quand même se mettre tous les 5 autour de la table et écrire un mémoire, c'est hyper facile en fin de compte à côté d'un livre. Et un livre, il a fallu le chapitrer, il a fallu faire une histoire qui embarque tout le monde, qui soit accessible. Et on voulait absolument que n'importe quel chef d'entreprise qui a la taille d'une TPE, c'est-à-dire qu'on l'a visé des chefs d'entreprise qui avaient entre 3 et 15 salariés. Donc, ce ne sont pas des experts en informatique. Il fallait à tout prix qu'ils puissent se dire comment je peux faire pour ne pas subir une cyberattaque et si j'en subis une, qu'est-ce que je dois faire ? Et c'est comme ça qu'on a commencé à dérouler un petit peu le début de mémoire, puis à la fin le livre. Et c'était génial parce qu'on est venu au début avec nos idées, entre guillemets, par rapport à la gendarmerie est venue avec ses idées à elle, le chef d'entreprise qui avait une grosse entreprise de plus de 300 personnes, donc c'était pareil. Bah, moi, je suis arrivé avec mon côté institution financière, avec des budgets de plusieurs centaines de millions d'euros, donc tout ça, ça ne collait pas. Et quand on s'est mis à interviewer des chefs d'entreprise, parce que c'était ça le secret de notre mémoire, c'est qu'on n'a pas écrit un mémoire à partir de nos idées, on a été rencontrer des chefs d'entreprise, de TPE, de PME, qui se sont fait attaquer. Il y en a qui ont perdu leur entreprise, il y en a d'autres qui ont justement pu réagir au bon moment, et on l'a dit, comment on peut faire ? Qu'est-ce qui vous manque ? De quoi vous avez besoin ? Quand on parle de cybersécurité, alors déjà quand on leur parle de cybersécurité, on est des martiens quoi. On a eu un cas, ça va être la première anecdote que je vais vous confier, c'est un petit restaurant qui fait que de la vente à emporter. Et ce petit restaurant, il a une page Facebook, toute sa vente se fait par sa page Facebook. Sauf que c'est l'effet TV5 Monde, le mot de passe de sa page Facebook est collé sur un post-it derrière sa caisse enregistreuse. En face, il a un concurrent. C'est de l'histoire vraie, hein. C'est pas du tout du fake, c'est pas quelque chose d'inventé. Il a un concurrent et cette personne embauche quand même 9 personnes, il a 9 salariés et du jour au lendemain, pendant le confinement, il se met à plus avoir de commandes. Il comprend pas. Il se dit, mais c'est bizarre, j'ai de moins en moins de commandes. Et il voit toujours sur sa page Facebook des gens qui le remercient, que c'était très bon, etc. Mais il n'y a pas de commande, il y a certains soirs, il n'y a plus rien, quoi. Et il décide d'aller checker sa page Facebook. Au départ, il voit que tout est normal. Et puis, il se rend compte que ce n'est pas le même numéro de téléphone. C'est le numéro de téléphone du restaurant qui est en face du sien, dans la même rue. C'est son concurrent qui a été se connecter sur sa page Facebook. Et au lieu de... Il a juste changé son numéro de téléphone. Donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé notre histoire. On s'est dit, tiens, on va regarder ce genre de choses. Et puis voilà, on est parti et puis on a commencé comme
l'histoire
ça.
L'histoire ne dit pas si le concurrent avait une nourriture qui était meilleure que le restaurant dont tu parlais.
Non, on n'a pas été là. Nous, notre objectif, c'était vraiment de voir... Bon, depuis, cette petite entreprise qui faisait de la nourriture, de la street food, bon, le gars est devenu un expert en cybersécurité. Il a durci ses pages, il fait de la 2MFA, etc. Il est devenu vraiment aware parce qu'il s'est rendu compte que malgré le fait que lui, son job, c'est de faire de la bouffe, c'est pas de faire de la cybersécurité, bah, il a été obligé de rajouter cette corde à son arc et il l'a vraiment rajouté dans le mode bah, « je suis assuré contre l'incendie, je suis assuré contre pour les responsabilités civiles, bah, je vais m'assurer le côté cyber, mais surtout, j'ai des bonnes pratiques à faire qui ne sont pas si compliquées que ça quand on a vu la fin de son entreprise. » Il avait quand même déjà commencé à licencier 4 à 5 personnes hein, sur les 9. Hein. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a commencé l'idée.
Je reviens rapidement au livre pour le structurer. Est-ce que vous avez eu de l'aide externe ou vous êtes arrivés à le faire tous les 5 ?
Alors c'est Jérémy Marlin, un des co-auteurs qui a travaillé énormément sur cette partie-là. Et c'est lui qui a commencé à le structurer avec Émilie Mercier, notre chef d'escadron, notre commandant d'escadron pardon, de gendarmerie. Et ils l'ont structuré. Et Émilie nous a vraiment challengé. C'était assez rigolo, nos séances de travail. C'est-à-dire qu'on se voyait le soir après le bureau, quand on se voyait à travers des confs Teams. Et on avait droit, parce que évidemment, les garçons sont hyper éparpillés. Travailler avec des garçons pour écrire des livres, c'est la folie. Jamila ne fait jamais un livre avec des garçons. C'est catastrophique. On avait droit à 5 minutes de vraiment lâcher prise. Et après, c'était le timing. Et pendant les 45 minutes à 1 heure qu'on se donnait chaque soir, on travaillait avec un plan, c'était prédéterminé. On avait chacun des tâches, qu'est-ce qu'on avait fait par rapport à la précédente réunion, etc. Et on a aussi Cédric Bouet, qui est aussi colonel de gendarmerie, qui lui lui il a un don, il sait écrire. Tu lui donnes 3 mots, il te fait un bouquin, quoi. C'est propre, c'est nickel, c'est hyper agréable à lire. Il n'y a pas de faute d'orthographe. Donc, c'était que du bonheur de travailler avec eux. Il y a Mathieu Collat qui est toujours chef d'entreprise, qui lui nous a apporté tout son réseau, tout aussi ce côté très pragmatique au niveau de TPE, PME. Et Vianney Dermy qui travaille chez Crédit Agricole Assurance. Alors, j'ai fait un peu de pub. Il travaille sur la partie cyber et sûreté. Et il a beaucoup œuvré sur le livre, sur toute la partie sûreté, parce que quand on parle de cybersécurité, on oublie toujours cet aspect que quand des locaux ne sont pas sécurisés, bah, ça va aider énormément les attaquants. Et dans les exemples qu'on a interviewés, les gens qu'on a interviewés nous ont donné pas mal d'exemples. Et un qui nous a fait sourire, c'est un imprimeur extraordinaire. Il nous dit, voilà, moi, la sécurité de mon site, elle est hyper bien faite. J'ai deux anciens salariés à la retraite de 75 ans. Ils ferment tous les soirs la société à clé et ils font le tour de la propriété pour être sûr que personne ne va rentrer et pirater quoi que ce soit. Bon, quand on voit ça, on se rend compte qu'il y a un petit peu de sensibilisation à faire. Et c'est comme ça qu'on a structuré.
Donc, oui, je me posais la question, en fait, il y a déjà beaucoup de... un grand corpus documentaire public, de guides, de règles, de documentation sur la cyber. Et est-ce que vous êtes inspiré, par exemple, de la cybersécurité et l'usage des dirigeants, qui est un guide que nous avions fait avec l'OCIR et l'Clusif, qui parle de 15 thèmes, ou du fameux guide des bonnes pratiques informatiques de l'ANSSI avec ses 12 règles?
On ne s'est pas appuyé sur ces documents parce qu'on est parti de notre mémoire. On ne s'est pas documenté là-dessus, on s'est appuyé sur nos expériences personnelles à chaque co-auteur. Et on a regardé celui-là de l'ANSSI, on avait regardé, mais très rapidement, ça nous avait pas, on avait trouvé ça un peu trop lourd à assimiler pour un chef d'entreprise, parce qu'on l'a fait quand on l'a fait nos interviews, on a constaté qu'ils avaient, au début, ils avaient très peu de temps. Ce n'était pas un sujet qui les passionnait. Et quand on a commencé à rentrer dans le fait que, bah, tiens, l'entreprise qui est en face de chez vous a déposé le bilan pour ça, il y a eu telle chose qui s'est passée. Et là, d'un seul coup, on a eu de l'écoute, mais ils voulaient avoir des solutions très pragmatiques, des solutions actionnables. Et dans les différents, sur celui-là de l'ANSSI, j'ai pas lu sur celui-là de l'OCIR, et je suis désolé, Vladimir, mais,
mon cœur se brise.
Ouais, mais c'est plutôt dans le cadre, on avait voulu prendre ce qu'on appelle une page blanche, une feuille, une version un petit peu, comment dirais-je, actionnable. C'était ça vraiment notre sujet, c'était de dire, on va avoir un chef d'entreprise, on ne lui vend rien, on va lui proposer des solutions et c'est une boîte à outils, il va choisir dedans avec des choses hyper compréhensibles pour lui.
Comment s'est passé le choix de vos témoignages? Pourquoi témoignage X et pas le témoignage Y?
Et déjà, il a fallu trouver des volontaires qui acceptent de parler. Ça a été ça le vrai débat au départ. Quand tu vas voir un chef d'entreprise et tu lui dis on va parler de cybersécurité alors qu'il n'a aucune sensibilité, ça a été une phase délicate. Donc, on a utilisé nos réseaux professionnels. On a eu la chance de travailler sur certains cas de clients qui avaient eu des attaques informatiques. Ils ont accepté de jouer le jeu. Ils ont dit ok, moi je joue le jeu, je vais en parler. On l'a anonymisé, bien entendu, tous les noms et des lieux. Par contre, tout ce qui est écrit dans le livre, ce sont des faits factuels, vérifiables. C'est pas du tout c'est pas inventé, il n'y a rien de tout ça, quoi. Lors du mémoire, quand on a fait le mémoire, on a donné les vrais noms, les vrais cas d'usage, et pour le livre, on les a anonymisés.
Alors moi, je vais juste faire une remarque de fond de cours. Il ne s'agit pas du livre, enfin des oubliés de la cybersécurité, il s'agit du livre sur les oubliés de la cybersûreté. Et tu m'y as fait penser en parlant de tes petits vieux qui faisaient le tour du jardin pour vérifier s'il n'y avait pas des piratages informatiques. Je voulais savoir si tu faisais une différence entre cybersécurité et cybersûreté, et en particulier, est-ce que tu incluais par exemple la sécurité physique dedans ou ce genre de choses?
Oui, ça inclut. Il faut pas oublier que une chose la plus, c'était pendant tout notre cursus scolaire, on a beaucoup souri. On avait une professeure, c'était Madame Gora, et son truc c'est les sécateurs. Elle adore se promener autour des data centers avec des sécateurs, donc c'est une spéciale dédicace. Et quand on parle de sûreté, on pense toujours, quand on parle de cybersécurité, on pense toujours que de l'informatique, mais on peut rendre une entreprise complètement inopérable avec juste. On coupe sa fibre, tout simplement. Vous la coupez avec un sécateur. C'est ce genre de choses qui se fait. On voit aussi le problème des caméras. On voit tout ce qui va être le problème de les IoT associés, etc. Et ce sont des sujets que les chefs d'entreprise, quand on leur a parlé au départ de la sûreté de leur bâtiment, ils ont dit, j'ai un système d'alarme. Donc, tout va bien. Et quand on leur a proposé de travailler sur des scénarios du type, vous arrivez le lundi matin, c'est le dernier jour du mois, c'est le jour où vous faites la paye. On vous a cambriolé que l'informatique. C'est-à-dire que vous avez vos bureaux, mais vous n'avez plus d'informatique. Qu'est-ce que vous faites? Et là, ils commençaient à se rendre compte que l'alarme ne s'est pas déclenchée, vous n'avez plus d'ordinateur, qu'est-ce que vous allez faire? Et c'est là qu'on a commencé à rentrer dans le système. Est-ce que vous avez des sauvegardes? Est-ce que vous avez de la résilience, etc.? Comment vous faites pour prévenir vos clients? Comment vous faites pour prévenir vos fournisseurs? Votre banquier? Qu'est-ce que vous allez dire à votre banquier? Vous n'avez plus d'ordinateur, donc comment vous faites pour vous connecter sur la banque en ligne? Alors certains vont me dire, mais ils ont aussi le téléphone. J'ai des doutes quand même c'est ce qu'on a pu constater lors de nos interviews. Beaucoup de chefs d'entreprise n'ont pas le numéro de téléphone de tous leurs clients. Ils en ont quelques-uns, les plus stratégiques, mais ils n'ont pas tous les clients. Ils ne savent pas qui doit être livré tel jour ou autre quand ça dépasse une dizaine de clients, etc. Comment on contacte ses fournisseurs pour expliquer que bah, s'il y a un changement de RIB qui va être fait, bah, qu'il y a eu un incident, etc. Il y a plein de petits scénarios qui ont été mis en place. Et on s'est appuyé aussi sur des cas concrets, sur le fait bah, que quand on se faisait pirater, bah, au niveau, par exemple, de payer la rançon qu'il fallait... Évidemment, il ne faut pas la payer, mais... Parfois, on se retrouve obligé de la payer parce qu'on n'a pas de sauvegarde, etc., etc. Bah, c'était très dur de convaincre son établissement financier qu'il doit devoir utiliser son argent pour payer du recel. C'était ce genre de petites choses qu'on a mis en place sur le livre. Et c'est un point que je voulais aussi mettre en avant. On a fait une devise sur le livre. Alors, je vais vous la lire. C'est « Tua res agitur pares cum proiamus ardes », qui veut dire « Votre intérêt est en jeu, mais quand la maison du voisin brûle ». Et tous nos exemples, quand on a discuté avec ces chefs d'entreprise, ça a super bien marché parce qu'on est venu avec des cas concrets dans leur zone industrielle. Bah, telle entreprise a cessé son activité suite à une attaque informatique. Et ça, ça a été percutant. Ça a été le game changer entre le moment, bon, votre truc, c'est sympa, je fais l'interview parce que j'ai accepté. Et puis, on n'est plus passé dans un mode interview, on était dans un mode échange.
Je voudrais revenir sur la question de Vlad et les recommandations. Il me semble que vous avez réalisé 10 commandements. Est-ce que tu peux en parler ?
Attends, avant, je fais une petite blague pourrie, mais là, tu parles de 10 commandements. Avec l'ossier inclusif, on en a fait 15. L'Annecy en a fait 12. Est-ce que tu as fait comme dans Marie à tout prix, là, quand le héros, il prend un mec en autostop qui lui dit hey, tu sais, il y a 10 vidéos qui font les abdos en 7 minutes. Moi, je vais sortir la vidéo des abdos en 5 minutes.
Non, pas du tout. On est parti sur quelque chose de simple et assimilable. On n'était pas du tout dans le mode faire le plus court, le plus long. C'était pas du tout l'objectif. C'était vraiment... On s'est mis autour de la table avec les chefs d'entreprise et on a fait une liste à l'après-verre. Hein. Qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette et surtout, qu'est-ce que vous pouvez faire avec vos moyens et vos budgets. Bien entendu, on aurait pu sortir une liste, même on aurait pu aller jusqu'à 100 conseils. Mais une TPE, il ne faut pas oublier que ce sont des petites entreprises. Ce n'est pas leur métier. Donc, si je prends les cas des 10 commandements, le premier, il est gratuit, c'est de la sensibilisation aux collaborateurs. Sensibiliser ses collaborateurs. Le contrôle des accès. Si possible, l'analyse du risque cyber, quand on peut la faire. La protection des actifs sensibles. Ne pas laisser ses mots de passe. Voilà, le coup du mot de passe avec un post-it, ça peut faire sourire, mais moi, j'ai trouvé ça incroyable. Ou encore, des routeurs qui sont laissés avec des configs d'origine. C'est ce qu'on a pu voir. On a même vu des machines pour imprimer, chez des imprimeurs, des imprimantes connectées en direct sur le net avec du RDP. Ça, c'était des trucs de fou. La mise à jour automatique du système, faire un Windows Update, ça coûte pas d'argent. On arrive le matin, on allume son PC, on fait Windows Update, on va boire un café. Voilà, c'est fait. La sauvegarde des données. Souscrire une assurance, au début, ça a été un sujet on s'est dit souscrire une assurance, mais aujourd'hui, l'assurance, ce n'est pas uniquement pour payer une rançon, c'est aussi pour faire intervenir des gens plus compétents. Et vous avez ce qu'on appelle un package de jours dans les assurances. Vous allez avoir 3, 5 jours, voire 10 jours, suivant le montant de la prime, pour que des gens interviennent pour vous aider à sortir de l'attaque. Alors là, il y a le côté gendarme. Recrutement avec enquête de moralité.
Ah oui, c'était magnifique, ça.
Ouais, il faut quand même. C'est-à-dire qu'il y a certaines fois, quand on voit certains recrutements, comment c'est fait, bah, il ne faut pas s'étonner derrière que bah, le piratage, la cyberdélinquance, ça existe aussi bien en externe qu'en interne. Il y a des gens qui vont profiter. Les déplacements à l'international qui sont encadrés, combien de fois on voit alors que ce soit aussi bien dans des trains, des avions, des PC qui restent ouverts avec toutes les présentations, les contrats, la personne qui va aux toilettes, même que 10 minutes, quoi, 5 minutes, tout est ouvert, il y a juste à mettre un dongle et c'est parti, quoi. Et puis faire de la veille et de la vigilance par rapport à son secteur d'activité. Donc on est resté sur 10 cadres qui sont accessibles, qui ne demandent pas des milliers d'euros. Une sauvegarde de données, c'est on prend une clé USB d'un tera aujourd'hui. On va sauvegarder on sauvegarde son PC. Si vraiment on n'a pas de moyens, on travaille avec deux ou trois PC en réseau dans un local, on peut le faire. Souscrire à une assurance, aujourd'hui, toutes les compagnies d'assurance proposent de la cyberassurance, y compris des banques assureurs, quoi.
Il y a beaucoup de recommandations qui sont effectivement des bonnes pratiques. Est-ce que vous recommandez, parce que vous êtes plusieurs, juste le fait de faire appel à des gens extérieurs, comme disait souvent JP, il aime bien appeler ça un bureauticien, mais d'avoir quelqu'un qui juste s'y connaît un peu en informatique et sait faire Windows Update, sait faire tout ce que tu viens de citer, parce qu'un dirigeant d'entreprise, parfois, il ne sait même pas faire une mise à jour.
Non, justement, c'est le point qu'on a mis en avant, c'est aussi de faire appel à des experts, mais généralement, ce qu'on a pu voir dans les TPE qui dépassaient les 10 personnes, c'est qu'il y avait un infogéreur. Et il faut que cet infogéreur, il ait cette acculturation, il faut qu'il ait cette sensibilité par rapport à la cybersécurité. Un infogéreur qui ne vous fait pas de sauvegarde, qui ne vous fait pas de mise à jour, ce n'est pas un infogéreur, ça s'appelle un escroc.
Et c'est la majorité.
Je laisserai mettre le dieu responsable de ces dix.
Oui, c'est ce que je constate. Mais c'est pour ça que ton bouquin il est intéressant. C'est qu'en fait, c'est un état. Moi j'étais frappé par la pharmacienne qui est dans le Val-de-Marne. Et c'est vrai que beaucoup de professions avec des petites entreprises, je veux dire, on est extrêmement tributaire de nos systèmes d'information. Mais quand on est pharmacienne, on s'occupe de ses patients, enfin de ses clients.
Tout à fait. On ne fait pas de la cybersécurité.
La cybersécurité, ça devrait être un package qui est déjà fourni avec l'outil. Or, ils ne savent pas se servir des outils. Et en plus, maintenant, il faudrait qu'ils soient sensibilisés et qu'ils fassent de la prévention. C'est un truc qui est extrêmement compliqué. On n'a jamais pensé, aucun d'entre nous au départ, faire de la sécu et sensibiliser à la sécu avant d'utiliser ces...
D'où le fait déjà de prendre au minima une assurance. C'est assurer du risque comme du cambriolage, comme de l'incendie. On prend une assurance sur la cyber. J'ai un incident de sécurité qui va arriver. Ça arrivera, c'est juste une question de temps. L'incident va arriver. Il faut que je puisse m'appuyer, pas uniquement pour payer ma rançon, mais aussi sur des experts qui vont intervenir pendant quelques jours, qui eux sont vraiment des experts. Ce sont pas des... faut vraiment prendre des personnes qui sont... qui ont des certifications, qui sont accréditées. Et c'est prévu dans le contrat d'assurance. C'est-à-dire que ça coûte pas un euro à l'entreprise le temps de leur intervention. Alors, il y a un nombre de jours qui est limité, mais 5 jours de ces personnes, c'est une année par rapport à quelqu'un qui est inexpérimenté.
Tu peux nous étayer un petit peu le propos de la pharmacienne? Qu'est-ce qui s'est passé?
Je vais devancer Marc Fred, parce que c'est intéressant comme anecdote. Donc, cette pharmacienne, elle a une office dans le Val-de-Marne, et elle explique que la cybersécurité, c'est pas que ça l'intéresse pas, mais elle, ce qu'il faut, c'est sécuriser physiquement ses locaux. En fait, c'est le propos liminaire, c'était plus de la sûreté, parce que dans son esprit, elle, son entreprise, son local, il y a les transmissions par carte, il y a les transmissions vitales, carte vitale, machin, mais pour elle, c'est un package, quoi. Si on rentre physiquement dans ses locaux, là, sa cybersécurité est en péril. Et en fait, la plupart témoignent, vous le savez dans vos métiers comme je le vois dans le mien, au départ, c'est soit une crainte sur le matériel, parce que matériel, logiciel, tout ça fonctionne ensemble, donc ils voient pas l'aspect cyber, et quand on leur explique, effectivement, dans ce bouquin, les témoignages sont édifiants là-dessus, quand on leur explique, ils tombent de leur chaise, la moitié d'entre eux, et ils disent, ah oui, on peut attaquer à distance, quoi. Mais dans leur esprit, c'est au départ, c'est trop immatériel pour beaucoup de gens, la cybersécurité.
Et ce qui les a vraiment sensibilisés, c'est quand on a commencé à faire des recherches sur les entreprises dans leur secteur géographique. Quand on parle d'une entreprise à Paris s'est fait compromettre, à vous habiter à Marseille, ça ne les intéresse pas. Quand vous commencez à leur dire, vous voyez l'entreprise qui a fermé chez vous dans votre zone industrielle il y a 3 mois, voilà ce qui s'est passé. Ils se sont fait attaquer il y a 6 mois, ils ont eu une demande de rançon, ils n'avaient pas de sauvegarde et les établissements financiers ne vont pas leur faire un prêt pour payer la rançon. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans une TPE-PME, vous avez une trésorerie qui est quand même à flux tendu. Alors quand c'est une demande de rançon de quelques milliers d'euros, il n'y a pas de sujet là-dessus. Quand on commence à parler de rançon de plus de 100 000 euros, c'est compliqué. Parce qu'il faut quand même pouvoir continuer à travailler, fournir la matière première.
Jamila, tu voulais réagir ?
Oui, alors je voulais aborder justement la question du maillage territorial, donc merci d'avoir anticipé la question et justement c'est aussi intéressant. Une autre question / commentaire que j'avais, parce que j'aime bien le point, garder un œil, faire sa veille. Qu'elle soit sectorielle, surtout.
Ils la font déjà, tu sais, entre nous. Entre nous, ils la font déjà parce qu'ils font la veille sur leurs concurrents. Et au début, quand tu leur parles de veille, de threat intel, quoi, concrètement, si on leur parle de termes techniques, alors là, tu les perds tous. Mais quand tu leur dis qu'il faut faire de la veille sur la cybermenace, ils ne comprennent pas, alors que tu leur dis, mais vos concurrents, vous les connaissez. Alors au début, c'est un petit peu gêné, puis à la fin, ils savent, voilà ce qu'il fait, voici où il s'alimente, voici son fournisseur, voilà ses marges opérationnelles. Je dis, dans la menace cyber, vous avez la même chose. Vous avez des groupes d'attaquants qui se sont spécialisés. Alors, il y a les opportunistes, mais il y a ceux qui se sont spécialisés par rapport à votre secteur d'activité. Quand on est sur un fournisseur qui fournit des pièces d'aéronautique pour des avions qui sont dans le secteur de la défense, on va aller plus loin. Mais eux, ils sont déjà sensibilisés parce que leur donneur d'ordre déjà les sensibilise énormément. Mais quand c'est une entreprise de restauration ou une pharmacienne, si on prend le cas de la pharmacienne, ou de l'imprimeur, le fait qu'il ait un RDP, un remote desktop, donc c'est un remote desktop d'ouvert sur une ligne internet, on fait un scan sur le port, on est dedans, quoi. Et pire que ça, derrière, c'est un Windows XP. Sur sa machine, on est sur un Windows XP. Et le mot de passe, je le dirai pas, mais c'est celui-là qui correspond au login. Et quand on voit ça, et la personne nous disait, ouais, mais moi, je ne crains rien. Bon, il s'est quand même fait que des gens se sont connectés dessus et chaque rouleau sur ces machines coûte 50 000 euros. Hein. Bah, il y en a un qui est parti pour écrire des choses pas très agréables. Ça fait partie des choses, ils sont sensibilisés derrière. Ils disent, mais bon, j'ai mis un firewall, j'ai une livebox. Ah, une livebox, c'est pas un firewall. Mais c'est une boîte, ça fait firewall, c'est ce qu'il voit dans les menus. Quand il regarde dans les menus les règles de firewall, pour lui, bah, moi, c'est un firewall. Et le chef d'entreprise, il ne faut jamais l'oublier, il a un info. Alors, l'infogéreur, on a appris sur ce cas-là, c'était un cousin. Ouais, non, mais là, on est rentré dans le monde réel des TPE, quoi. Et le cousin, il fait une école d'informatique, mais pas en cyber. Bon, après notre interview, je pense que le repas du dimanche a dû être un peu plus compliqué pour le cousin. Ça a dû être un peu plus tendu, mais c'était le côté...
Et du coup, deux questions à la suite de ce que tu viens de dire. Donc, par rapport au maillage territorial, justement, on sait, de par les rapports qui sont publiés, notamment par l'ANSSI, etc., que les TPE-PME sont effectivement une priorité, qu'il y a ce maillage territorial au niveau des administrations pour participer à la sensibilisation. Est-ce que tu as mis en place une sorte de, je sais pas, peut-être partenariat, c'est un grand mot, mais en tous les cas, faire en sorte que ton bouquin circule auprès des bons interlocuteurs? Et la question suivante, c'est, est-ce que vous avez mis un peu des, c'est un gros mot, mais des KPIs un peu en place pour voir, ok, une fois qu'on a mis en place ces 10 commandements, effectivement, est-ce qu'on a pu constater une diminution, pardon, alors peut-être pas du risque, mais du coup de la menace cyber auprès des mêmes interlocuteurs dans, je sais pas, un an, trois ans.
On a pas mis de KPI parce qu'on ne vend rien. Il faut pas oublier que c'est un livre qui a été fait de façon bénévole. Donc auprès de l'éditeur, c'est un point que je vais répondre à tes questions juste après. L'ensemble des bénéfices, ils sont reversés à une œuvre nationale des Bleuets de France. C'est-à-dire que aucun des co-auteurs ne touche un centime. C'est-à-dire qu'on a fait. Il faut savoir que le livre vaut 24 euros. Au niveau des auteurs, on touche 2 euros. Donc 2 euros divisé par 5, voilà, on s'est dit non, on va pas... C'était pas ça l'objectif. L'objectif était vraiment de faire de la sensibilisation, de partager notre expérience. Et on n'a pas mis de KPI, on n'a pas fait de benchmark derrière. Par contre, on l'a appliqué sur des entreprises qui avaient des difficultés. Et ça, on l'a vu derrière, ça marchait plutôt bien. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à se sensibiliser, à diminuer leurs risques. Et je ne m'aventurerai pas à dire oui, depuis 2 ans qu'ils font ça, ils n'ont pas d'attaque. C'est-à-dire que l'attaque interne, je suis désolé, il n'y a rien qui. Ça ne va pas le protéger, le bouquin. Par contre, les attaques opportunistes, le fait de ne pas avoir un boîtier de filtrage, le fait de ne pas avoir des environnements, des panneaux d'administration ouverts sur Internet, oui, ça aide. Ça ne fait pas partie des nouvelles victimes. On a surtout mis en place comme sensibilisation, c'est le fait de contacter les gendarmeries comme la police nationale, mais le Comcyber, en cas d'attaque. Surtout de tout de suite déposer plainte. C'était vraiment le leitmotiv. Là, on rentre dans les détails un petit peu, mais une entreprise se fait attaquer, quelle que soit sa taille. Le dirigeant doit prendre les 2 heures c'est pas 2 heures de perdu, c'est 2 heures à aller déposer plainte. Il y a différents portails, que ce soit aussi bien du cybermalveillance, que ce soit aussi bien le Comcyber, l'ANSSI pour certaines sociétés. Il faut aller déposer plainte, faire le signalement, en parler à son banquier, parce qu'il y a quand même cette fraude-là qui va avoir lieu suite aux attaques. Faire baisser ses plafonds au niveau de ses virements, de faire attention à tout ce qui est changement de riz, prévenir ses... Quoi, il y a toute cette sensibilisation qui a été mise en place, et c'est là-dessus qu'on a travaillé, mais on n'a pas prévu de faire un post-mortem par rapport au livre. Déjà, on a été très, très, très surpris qu'on ait réussi à sortir le livre, parce que ça nous a pris quand même une année après la publication du mémoire, et on a travaillé toutes les semaines, on se voyait au minimum une fois par semaine.
Alors justement, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce qu'on écrit un livre à 5 auteurs ?
Alors là, les planètes se sont alignées quand on a écrit le livre. On a une chance extraordinaire. Personne n'a eu de crise d'ego. C'est-à-dire que quand le projet est parti en disant « on va écrire le livre », il n'y a pas un qui dit « oui, moi je veux mettre ça en avant » ou « je veux être mis en avant », etc. Tous les co-auteurs, on s'est dit « ok, pourquoi pas, on va partir là-dessus », mais on ne connaissait rien, quoi. On a été mis en relation avec VA Édition, Et VA Édition nous a expliqué, bah voilà ce qu'il faut que vous fassiez, votre histoire soit structurée, faut que ce soit écrit dans un français compréhensible. Donc il y a eu des relecteurs pour les fautes d'orthographe. Et il faut savoir que tout ça, vous le payez de votre poche. C'est pas... Alors, la maison d'édition est très cool, elle nous donne le nom de la personne, mais si vous voulez une correction orthographique, juste orthographique, on parle même pas encore de grammaire, hein, bah vous payez. Et puis après, si vous voulez une deuxième relecture, parce que en une fois, vous n'enlevez pas toutes les fautes, toutes les erreurs de syntaxe, etc., bah... Faire un livre, ça coûte de l'argent aux auteurs. La maison d'édition ne fait qu'une seule chose, elle vous met à disposition son réseau de librairie, son réseau de distribution, mais tout le reste, c'est à vous de le payer. Et on s'est mis en ordre de marche, bah, chacun va faire une partie. Donc moi, j'ai fait la partie réponse à incident, c'était assez facile par rapport à mon métier. Vianney, qui était très sûreté, il a fait, bon, moi, je prends la partie sûreté. La partie régalienne a été faite par la partie gendarmerie. Mathieu Collat, lui, il avait la chance d'être dans une entreprise de comptable et d'expert comptable. Donc, il les a apporté toutes ses visions. Et Jérémy Marlin, qui est entrepreneur et qui travaille énormément avec les mutuelles, et il nous a apporté aussi une autre vision. Et on est chacun resté dans notre précaré, et on n'a pas eu de... Il n'y a pas eu de tension, ça s'est écrit, on était hyper étonnés à la fin. Quand on a fait le choix de la couverture, on l'a fait ensemble. C'était du style, bon, ça te plaît, ça te plaît pas. Mais en une demi-heure, c'était plié, quoi. Il n'y avait pas de débat. Quand il a fallu mettre le nom des personnes sur le livre, personne s'est dit, ben moi, je veux que mon nom soit en premier. On ne s'est pas pris la tête, on l'a fait par ordre alphabétique. Et c'est dommage parce que quand même, la seule fille de notre livre, c'est avec son nom de famille commence par M-E, et c'est la dernière de la liste alphabétique, elle se retrouve à la fin, quoi. On s'est tous retrouvés un petit peu gênés, on s'est dit, c'est quand même très macho notre truc, quoi. Et pas du tout, ça s'est appuyé comme ça. Mais il faut bien voir que tout ça fonctionne parce que ça faisait quand même... On avait fait l'école ensemble, on avait fait le mémoire, on a fait un stage d'intégration qui était... C'est sympa l'école de guerre économique, le stage d'intégration. Il paraît qu'on n'a pas le droit d'en parler, mais on finit quand même en treillis, dans la boue, il y a plein de petits trucs comme ça. Vous passez nuit à dormir tous ensemble par terre. C'est assez surprenant dans un endroit que vous dites « mais jamais j'irai dormir là-dedans ». Et ce qui fait que bah, vous êtes avec des camarades de classe. Moi, c'est quelque chose que je n'avais pas connu depuis plus de 30 ans, quoi. Et donc, c'est le bouquin arrive comme ça et ça se fait naturellement. C'est une belle expérience. Il n'y a pas de moment de tension tel qu'on pourrait voir ou de compète. C'est plutôt des moments on n'y arrivera jamais. On sait à un moment, on n'y arrivera jamais parce qu'on voulait toujours rajouter quelque chose. Mais l'éditeur nous a calmés, nous a dit non, là, c'est bon, vous avez fait le nombre de pages. Voilà, c'est le côté. On a fait quand même pas loin de. On l'a fait 215 pages quand même. Hein. Et parti d'une feuille blanche. C'est le truc où on est parti d'une feuille blanche et on n'était pas du tout. Aucun d'entre nous n'avait pensé un jour écrire un livre, quoi. Moi, quand j'ai expliqué ça à la maison, ils m'ont tous regardé. Bon, alors les enfants, c'est papa, il faut vraiment que tu arrêtes les produits à ton âge. Il faut plus que tu ailles à Amsterdam, il n'y a plus de coloc là-bas, il faut que tu arrêtes. Et ils avaient du mal à y croire. Et puis au fur et à mesure, quand ils ont vu le travail qu'ils avaient fait pendant toute l'année et que ça avançait au fur et à mesure, les corrections, les relectures, bah, ils ont dit « ok, ça va le faire ». Et notre plus grande surprise... Bah, c'est que cette année, on a été nommé au FIC, au prix du livre de la cybersécurité InCyber. On l'a été nommé et on a été lauréat. Et là, on est resté complètement scotché parce qu'on s'y attendait pas. On s'est dit, mais comment ça se fait que notre livre soit sorti, soit en plus lauréat. Et quand on a rencontré le jury, ils nous ont dit, on a adoré votre livre parce que c'est le seul livre qu'on a compris en une fois. Et là, on est resté mais scotché parce que nous, notre but, c'est quand on a fait le bouquin, c'était que ça s'explique. On pourrait presque dire, j'explique la cybersécurité d'une TPE à ma grand-mère, quoi. Mais il y a déjà, je crois, un podcast qui tourne là-dessus. Mais c'était le côté... Waouh. Ouais, on est resté scotché parce qu'on s'y attendait vraiment pas. Et quand on s'est retrouvé au FIC cette année pour la remise du prix, bah ouais, vous avez la larme à l'œil. Hein. Moi, j'étais hyper fier. J'étais avec mes enfants, tout. J'étais... Ouais, yes. Bon, j'ai pas été augmenté auprès de mon patron.
Mais c'est ça, le prix, c'était 2 euros aussi ou il y avait... C'est des non, prix alors, Nobel.
Alors le prix, on a là-dessus, ils ont été au niveau du FIC, ils ont été très cool, mais pas si cool que ça. Ils nous ont donné qu'une seule plaque en verre et il n'y en a qu'une seule pour les 5. Donc là, on n'a pas eu chacun un prix individuellement. Donc normalement, c'est Jérémy Marlin qui doit récupérer le prix, mais je ne lui ai pas encore donné. J'ai un peu de mal.
Vous ferez une garde partagée.
Exactement, c'est ce que je fais. C'est-à-dire qu'en 2024, il est pour moi.
Ok, Marc-Frédéric, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin ?
Alors, le mot de la fin, ça serait, si vous avez une idée, si vous avez un projet, n'hésitez pas à le mettre dans un bouquin. C'est génial. C'est une aventure qui vaut la peine d'être vécue. Si vous êtes un petit peu timide, mettez-vous avec un ami, des personnes avec qui vous travaillez. C'est une super aventure parce que ça va vous forcer à structurer votre idée. C'est-à-dire qu'au début, c'est hyper facile d'avoir l'idée. Vous dites, oh, ok, je vais faire un bouquin sur de la cybersécurité, je vais parler par exemple des failles de vulnérabilité, etc. Mais quand vous dites, bah, ok, on part sur 200 pages. 200 pages à parler sur un sujet, à commencer une histoire, à faire une introduction, un développement, etc. Ça peut sembler facile pour certains. Nous, ça a été vraiment une vraie galère. Et surtout, c'est d'avoir ce côté bienveillant d'accepter la critique. C'est-à-dire que lors de nos séances, on avait quand même des quarts d'heure de ce qu'on appelle de bashing, hein, c'est de dire bah, tout ça, ça ne va pas. Et à aucun moment, il faut vraiment pas prendre ça à titre personnel. Il faut se dire, ok, ce que j'ai fait, c'est pas aux attentes. Je dirais que ça ressemble à une matière qui va être dans la scène aux Jeux Olympiques. Mais c'est ce côté-là, quoi. C'est vraiment le... Non, faut s'éclater. Écrivez un bouquin, faites-vous plaisir. Vous ne ferez pas d'argent, vous ne serez jamais un Guillaume Musso, vous allez vendre 1 million d'exemplaires. Mais d'un autre côté, moi, j'ai trouvé ça top. Et si c'est à refaire, je re-signe sans problème.
Moi, j'avais une autre morale pour conclure sur McFred qui dit qu'il faut y aller. Moi, je citerais plutôt Joueur du Grenier dans l'épisode d'Aikatana qui dit « À vouloir voler trop haut, le héros s'est brûlé les ailes. Il s'imaginait être le héros, mais il oublia l'essentiel. Lorsque l'envie vous prend d'essayer quelque chose de bien, abandonnez rapidement avant d'échouer comme un chien. »
Eh, mais c'est très optimiste, ça, Vladimir. Bon, et bien sûr, ces bonnes paroles. Marc-Frédéric, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
C'est moi qui vous remercie.
Merci aux contributrices et aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir. Au revoir.